OK, on continue notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. On termine la leçon qu'on avait débutée la semaine dernière, qui était sur la discipline du service. Alors, on avait utilisé une illustration que l'auteur utilise pour nous parler que il engageait des personnes pour une entreprise qui s'appelait Pony Express. Les personnes fallait qu'ils travaillent énormément d'heures par jour et très peu payées avec beaucoup de risques. Et l'idée de l'auteur, c'était de vouloir comparer ça avec notre vie de service aujourd'hui. Même si ça a l'air moins dangereux, ça dépend où qu'on sert et qu'est-ce qu'on fait. Si on est des missionnaires dans des pays où il y a de la persécution, le service peut être extrêmement dangereux et même mortel. Alors, on avait regardé que le service, d'après les Écritures, c'est un devoir qui est exigé de tout chrétien pour plusieurs raisons. On va juste reviser ce qu'on a regardé la semaine dernière très, très rapidement. La première, c'est par obéissance. La deuxième, par gratitude. La troisième, c'est par joie. Et la quatrième, c'est à cause du pardon qu'on a reçu. Et la cinquième, c'était par humilité. Et on était rendu là. Et il y en a encore un autre, c'était par amour. Quand on regarde au chapitre 5 du livre de Galates, on voit au verset 13 et 14, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par charité. » S'assujettir l'un à l'autre, ça veut dire on devient, autrement dit, on considère l'autre comme étant notre maître et c'est nous qui sommes à son service. Comme ça dit, les uns les autres, on se doit de le faire les uns envers les autres, puis ça le dit par charité ou par amour, c'est la même signification. Car toute loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien entendu. L'amour, c'est le carburant qui brûle le plus longtemps et qui fournit la meilleure énergie. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, versets 28 à 31. Alors, un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha. Et il lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est, « Écoute Israël, le Dieu, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Alors, c'est vraiment intéressant la qualité que le Seigneur demande de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force envers lui. Et là, il dit, OK, commence par Dieu, d'aimer Dieu. Ensuite, tu te dois d'aimer ton prochain. Ton prochain, c'est plus que juste tes frères et sœurs en Jésus-Christ, ça. Ton prochain, c'est très large. C'est autrement dit, tous les êtres humains sans exception. C'est sûr que le Seigneur nous demande d'avoir un amour particulier envers les frères et les sœurs en Christ. Il nous dit de les faire passer en premier. Mais il reste qu'on a quand même des devoirs envers les êtres humains en général. Le deuxième point qu'on voulait regarder, c'est le fait que les Écritures nous enseignent que tout chrétien, dès que quelqu'un est régénéré par le Saint-Esprit, qui devient chrétien, il reçoit automatiquement un don spirituel. Et il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle un don spirituel qui nous est donné par le Saint-Esprit et un don naturel. Des fois, il y en a qui vont dire « Ah, OK, ils savent jouer de la musique ». Là, quand ils deviennent sauvés, ils se disent, « Bon, ben là, je vais continuer mon don, C'est un don naturel, c'est pas un don de l'esprit. Alors, il ne faut pas confondre les deux, parce que des fois, tu peux être un musicien, puis ça se peut que le Seigneur ne veuille pas nécessairement que tu le serves en jouant de la musique. Il veut peut-être que tu le serves en faisant d'autres choses de très différentes. Alors, il faut faire la distinction. C'est sûr, on ne fera pas ce soir une étude approfondie des dons spirituels, mais il reste que la première chose à mentionner, c'est qu'il y a une différence entre les dons spirituels et les dons naturels. Les dons spirituels, c'est le ou les dons que le Saint-Esprit lui-même t'a donné dans le but de l'édification commune dans une église locale. Et il le fait souverainement. Alors, c'est pas toi, quand tu viens au monde spirituellement, qui dit au Saint-Esprit, « Ah ben moi, j'aimerais ça être comme tel don. » C'est lui qui décide quel don au pluriel. Il peut t'en donner plus qu'un. C'est dans sa souveraineté absolue qu'il en donne au moins un. Ça se peut pas que quelqu'un soit chrétien et qu'il n'ait pas reçu un, parce qu'à ce moment-là, si ça serait ça, les Écritures mentiraient. Et les Écritures ne mentent pas. Tout chrétien a un don spirituel. L'importance du don spirituel, c'est que, en étant conscient qu'on en a reçu un et que le but que le Saint-Esprit nous l'a donné, c'est pour l'édification commune. Autrement dit, il ne te l'a pas donné, il te l'a donné pour les autres. Alors moi, je pose un problème. Si le Seigneur t'a donné un don, puis si tu n'es pas là, lors des assemblées, c'est qui va profiter de ton don? Super de belles questions, hein, parce que ça met en rapport la fidélité au culte et le don spirituel que Dieu t'a donné. Et Dieu veut que tu l'exerces, ton don. Il ne te l'a pas donné juste pour... Il veut que tu l'exerces parce que lui, son but, c'est l'utilité commune. Alors, le don qu'il va t'avoir donné va servir aux autres. Qui vont le recevoir. Mais souvent, là, quand on est un jeune chrétien, on a un don qu'on exerce. On n'est même pas conscient du don que le Seigneur nous a donné. Si on te demandait, c'est quoi ton don? On devrait, plus ça fait d'années que tu es chrétien, plus tu devrais le savoir. Mais c'est surprenant de voir combien de chrétiens ne savent pas le don spirituel que Dieu leur a donné. Pourtant, ils s'exercent quand même. C'est ça que, bien souvent, c'est plus les autres qui voient quel don spirituel on a. Alors, quand on est régénéré ou sauvé par le Saint-Esprit, on reçoit automatiquement un don du Saint-Esprit. Et, comme on l'a mentionné tantôt, ceux-ci ne doivent pas être confondus avec nos talents naturels. Un talent naturel puis un don spirituel, c'est deux choses complètement différentes. Un des passages des Écritures qui nous décrivent, alors, on ne fera pas une étude complète sur les dons spirituels, mais ce qui est important, d'avoir les principes généraux. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 11. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, comme je vous ai dit tantôt. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du Saint-Esprit le don de guérir. Un autre, les opérations des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. La souveraineté du Saint-Esprit dans la distribution de ses dons. Mais la chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que tous en ont reçu un ou plusieurs, et c'est le Saint-Esprit qui décide. Alors, le passage nous apprend que chaque nouveau croyant reçoit un don spirituel du Saint-Esprit, qu'il les distribue souverainement, et pour l'utilité commune de l'Église locale. On a un autre passage, il y a plusieurs passages qui parlent des dons spirituels. Éventuellement, on fera une étude approfondie là-dessus pour essayer... Il existe des techniques aussi pour apprendre à discerner quel don le Saint-Esprit... Parce que c'est important de savoir quel don on a, parce qu'on peut mieux le pratiquer lorsqu'on sait quel don le Seigneur nous a donné. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11, « Que chacun emploie le don, selon qu'il a reçu, au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Un dispensateur, ça veut dire quoi? Tu es un administrateur. Dieu t'a donné un don et il te rend responsable de l'administrer. Si tu as reçu un don, puis tu viens à tes cultes une fois sur deux, puis quand tu viens pas, tu n'as pas vraiment de raison de ne pas venir. Ça arrive, je le sais par expérience. Quand les personnes ne viennent pas, autrement dit, sont des mauvais administrateurs. Parce que tu l'as reçu pour le donner aux autres. Et si tu n'es pas là, comment veux-tu que l'autre profite du don que le Seigneur t'a donné? Il ne te l'a pas donné pour que tu l'exerces pour toi, sur toi. Il te l'a donné pour que tu l'exerces pour les autres. Alors, selon les dispensateurs des diverses grâces de Dieu, alors dans le verset 11, ça dit « Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique. » Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alors, nous sommes des administrateurs du ou des dons que le Saint-Esprit nous a confiés en l'exerçant au service de nos frères et de nos sœurs en Jésus-Christ. Cela implique que nous soyons présents à tous nos cultes et réunions en église locale. Malheureusement, je peux dire que pas beaucoup de personnes qui comprennent ça. Même chez les chrétiens de longue date, parfois. Parce que si tu le comprendrais vraiment, tu dirais, Dieu m'a donné un don, et le but pour lequel il me l'a donné, c'est que je l'exerce pour l'utilité des autres. Alors, comment veux-tu que les autres reçoivent les bénéfices de ton don si tu n'es pas là? Bonne question. Il y a un autre passage qui parle encore des dons. Romains chapitre 12 et versets 4 à 8. Alors ici, on parle de 7 dons aux personnes croyantes. Ça dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres. Ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère, pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement, pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation, pour exhorter, celui qui distribue les eaux au monde, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui préside, qu'il préside avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Quand on dit celui qui préside, nous, on a, tu sais, comme les baptistes, et la plupart des églises ont cette tradition-là de quelqu'un qui préside le dimanche matin. Le don de présider, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que juste aller en avant, puis coordonner les différentes activités qui se passent dans un culte le dimanche matin. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, là, parce qu'il y a 7 dons que j'ai mentionnés. Parce que, par exemple, moi, je crois que mon don, c'est l'enseignement. Parce que je l'exerce depuis 20 ans et je me sens très bien là-dedans et j'aime ça. Alors, peut-être que le Seigneur m'en donner plus qu'un, mais celui que je suis certain, c'est celui de l'enseignement. Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 16. Donc, le Seigneur a donné des dons, un don particulier à chacun de ceux qui sont devenus des croyants, mais il a aussi donné des dons d'hommes. Autrement dit, l'Église, dans toutes les églises locales du monde, le Seigneur a donné des dons, pas juste un don de soit la prophétie, soit l'enseignement, des dons d'hommes, donner un homme ou des hommes à son église ou à ses églises locales. Alors, le passage qui parle de ça, c'est Éphésiens 4, versets 7 à 16. « Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant il est descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. Et c'est ici la mention du don d'homme. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Autrement dit, c'est Dieu qui décide quel homme il donne à quelle église. Et c'est ça qui est bien mentionné. Ici, on parle d'apôtres. Alors, la période des apôtres, ça a été juste pour l'ouverture de l'église, pour le début de l'église. Les prophètes, jusqu'à ce que la Bible soit complète. Ensuite, on a les évangélistes, on continue de l'avoir aujourd'hui. Et quand vous regardez pasteur et docteur, ça va ensemble. Pasteur, docteur, ça veut dire tout simplement enseignement. Normalement, un pasteur est un enseignant, normalement. À moins qu'il soit la catégorie de qu'on appelle ceux qui sont là pour surveiller. Alors, ça dit dans le verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emporté ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. » Alors ici, on apprend dans le passage, surtout dans le verset 11, que le Seigneur donne des dons d'hommes à son Église. Et il le fait tout le temps, depuis le début. Il a toujours fait ça. Il le fait encore. Alors, quelques autres passages pour étudier plus profondément la doctrine biblique des dons spirituels. Comme je l'ai dit, le but ce soir, c'est pas de faire une étude sur les dons spirituels, c'est juste de retenir l'idée que le Seigneur a donné un à tout le monde et que tu en es l'administrateur, que tu en es le responsable. Et en étant responsable, ben, c'est ta job d'être là pour le donner aux autres. Aussi simple que ça. Alors, on en parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 31, et on en parle également dans 1 Corinthiens 14. Alors, quelqu'un qui veut faire une étude exhaustive des dons spirituels, il est obligé d'aller voir tous ces passages-là, puis des étudier en profondeur, et de regarder les impacts et les implications que toutes ces choses-là ont sur nos propres vies. Alors, les choses à retenir sont que tous les croyants ont reçu un ou plusieurs dons du Saint-Esprit. Ces dons ont pour but l'édification et le service dans l'Église locale. La manière de découvrir et de confirmer notre ou nos dons est par l'étude des passages concernant les dons spirituels ou par le service dans l'Église locale. Alors, ça pourrait arriver que quelqu'un ait jamais fait une étude sur tous ces passages-là et qu'il connaisse quand même son don parce que soit qu'il l'a découvert en l'exerçant puis s'en est rendu compte, ou soit que les autres lui ont fait la remarque. D'autres qui ont peut-être plus de connaissances sur les dons spirituels lui ont dit « As-tu remarqué que tu as le don d'encourager ou tu as le don de... » Alors, c'est ça. On l'apprend soit en étudiant ou on l'apprend soit en l'exerçant dans l'Église locale. Alors, un effort conscient est parfois nécessaire de la part du croyant pour découvrir plus rapidement et l'exercer plus régulièrement et plus efficacement. Si on connaît notre don, on est capable de l'exercer plus rapidement et plus efficacement. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Tu l'as, tu l'exerces pareil. Mais quand on le connaît, on l'exerce plus rapidement. Je me souviens la première fois qu'un pasteur m'a demandé « Tu veux-tu faire un enseignement, Marcel? » Ça m'attirait, mais ça m'a sapré la frousse, comme on dit. C'était quand même une église de 40-50 personnes. puis t'es pas habitué à ça, puis tu sais pas trop comment préparer ça, un message au début. Alors, c'est là que tu vois si tu l'as ou si tu l'as pas. Si tu l'as, à quelque part, tu vas t'en tirer quand même relativement bien, même si c'est la première fois. Si tu l'as pas, je me souviens de l'histoire de la plante des carottes, là, celui qui avait vu, le cultivateur, qui avait vu dans le ciel un gros PC, là, puis lui, il disait que c'était comme...
Prêche-Christ.
Puis à un moment donné, le pasteur, il a dit, ben OK, si, vas-y, prêche-nous, on va voir que si tu l'as, l'affaire. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il ne l'avait pas, mais il ne l'avait pas, mais pas en tout. Fait que t'es sûr que ça ne voulait pas dire plante des carottes au lieu de prêche-Christ. Ça va plein de bon sens. Troisième idée, le service, un travail difficile, mais gratifiant. Le service chrétien est un travail difficile. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. L'œuvre, c'est du travail, ça. En vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. En anglais, c'est encore plus clair parce que ça dit « And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints for the work. » For the work. Quand on dit « work », c'est le travail. « The work of the ministry. » Colossiens 1, versets 28 et 29. « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille. » Alors, c'est un travail. Un don spirituel, c'est aussi un travail. Le mot « travail » signifie travailler jusqu'à l'épuisement, tandis que le mot grec traduit par « combattant » vient de notre mot « agoniser ». Donc, servir, pour Paul, c'est travailler en agonisant jusqu'à l'épuisement. S'il y en a un qui comprend ce que le verset veut dire, c'est bien Paul. Parce que lui, pour lui, travailler, c'est pas juste travailler un petit peu. Il s'est brûlé, comme on dit pour le Seigneur. C'était un gars qui appliquait ce qu'il enseignait. Le Seigneur aussi, lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, a travaillé de cette manière-là lors de sa première venue sur terre. Jean 4, verset 31-34. « Cependant, ses disciples, priant, lui disaient, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Très souvent, le Seigneur a travaillé jusqu'à l'épuisement pour l'avancement du royaume de Dieu. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, dormir sur le sol, etc. Dormir sur le sol pour le Seigneur, là. Je n'ai pas dormi souvent sur le sol, puis les fois que j'ai tout dormi, je fais peut-être quelques fois, mais pas très confortable de dormir sur le sol. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité qui vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Ce qui est intéressant, des fois, on en discute, on est dans le parc, on discute de toutes sortes d'affaires. À un moment donné, je dis, l'opinion des hommes sur mon ministère, ça ne me fait pas grand-chose, pour être bien vrai, là. Ça ne me fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a juste le Seigneur qui a vu tout ce que j'ai fait. Et il y a juste le Seigneur qui connaît les motivations pour lesquelles j'ai fait les choses. Et c'est lui qui est capable de donner une note et de dire, ça que tu as fait, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Mais son jugement, là, moi quand le Seigneur va me dire, ça c'est moins bien, ça, pff, pas cher, je ne m'ostinerai pas avec. Ben, je vais savoir qu'il a raison. Tandis que les hommes, des fois, ils peuvent regarder ton ministère, ils peuvent te critiquer, puis ils sont pas dedans, pas en tout, parce qu'ils connaissent pas tes motivations, puis ils connaissent pas jusqu'à quel point tu t'es impliqué pour réaliser telle ou telle œuvre. Alors, même Paul le dit dans les Écritures, il dit, je me soucie guère de ce que vous pensez. Ce qui est important pour lui, c'est ce que le Seigneur en pense. Alors, ça dit, le service chrétien, comme autre idée, se doit d'être balancé. Un peu l'idée de pas te garocher juste dans le service, puis oublier d'adorer. Normalement, ça va dans l'ordre suivant. Tu adores, tu sers. Pas tu te garoches, puis si tu restes du temps, tu adores. Faut toujours que tu mettes l'adoration en premier. Tu adores Dieu, tu sers en deuxième. Alors, le chrétien doit s'assurer de conserver un équilibre entre l'adoration et le service. L'adoration tant personnelle que de couple ou de famille, que en église locale, prépare et motive pour le service. L'adoration nous fournit de nouvelles raisons de servir et augmente notre désir de le faire. L'ordre est toujours le même, adorer, puis servir. Très important ça, de retenir cela. Là. Parce que des fois, les gens peuvent se garocher dans ce qu'on pourrait appeler l'activisme, comme Marthe et Marie, tu sais. Marie, quand le Seigneur a défendu Marie, il dit, elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera point ôtée. Fait que si tu choisis d'adorer en premier, le Seigneur ne t'ostinera jamais. Ben non, continue à servir, tu vois bien que l'autre a ploie sous le fardeau. Il ne dira jamais ça. Le service exige aussi que nous soyons bien disposés. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Luc, verset 22, versets 24 à 27. Il arriva aussi une contestation entre eux, sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui exercent leur autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais vous, ne faites point ainsi, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert, car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, le Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il était le plus grand, puis c'est lui qui servait. Alors, il nous donne un exemple. On termine en publiant, c'est comme si on voudrait publier la même annonce que le gars publiait pour recruter du monde pour distribuer le courrier au début. Là. On en fait une comme si on recrutait des serviteurs de Dieu pour aujourd'hui. Alors, on pourrait écrire dans le journal, demander des volontaires doués pour un service difficile dans l'expression locale du royaume de Dieu. L'obéissance, la gratitude, la joie, le pardon, l'humilité et l'amour sont les motivations pour servir. Le service sera rarement glorieux. La tentation de quitter le lieu de service sera parfois forte. Ça, je sais par expérience. Les volontaires doivent être fidèles malgré de longues heures, avec peu ou pas de résultats visibles et éventuellement aucune reconnaissance sauf de Dieu dans l'éternité. Application, trois applications rapides. Comme le service est exigé de tout chrétien, demandons-nous honnêtement si nous servons le Seigneur comme le commandent les Écritures. S'examiner soi-même est hautement souhaité, mais encore mieux, implorons le Seigneur de nous montrer notre degré et notre qualité de service en lui demandant de nous donner la grâce de croître sans cesse en tout point pour sa gloire. Deuxième application, rappelons-nous que nous avons tous reçu un ou plusieurs dons du Saint-Esprit et que nous en sommes les administrateurs. Nous devrons en rendre compte. Soyons conscients que pour exercer notre ou nos dons, nous devons être fidèles dans l'assistance à nos cultes. Comment l'Église locale pourra-t-elle profiter de notre don si nous ne sommes pas présents à nos cultes? Troisième application et dernière, n'oublions pas d'être balancés dans nos priorités. L'adoration doit précéder le service et nourrir nos motivations de servir. Implorons le Seigneur de servir plus et de servir mieux pour sa plus grande gloire. Que notre grand et glorieux Seigneur nous donne de devenir de bons et fidèles serviteurs par sa grâce et pour sa gloire. Amen.